Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Il s'appelle Vincent Morche. C'est un jeune père de famille, philosophe de formation, éditeur dans la vie civile. Vincent Morche a publié un livre récemment appelé « Petit éloge de la vérité manifeste pour un humanisme chrétien ». Tout est parti pour lui d'une question très personnelle, comment donner à son enfant le goût de la vérité. Sa réponse fait une bonne centaine de pages, tranchante, éclairante, savoureuse. Vincent Morche, bonjour.
Bonjour.
Cette émission enregistrée depuis les studios de Lourdes à l'occasion de rencontres nationales des médias chrétiens, rencontres même internationales maintenant, on en a profité pour organiser cette rencontre. Ce livre donc qui est paru en 2015 aux éditions Salvator, voilà, je dis souvent c'est le luxe de cette émission, c'est qu'on n'est pas obligé de parler des livres qui ont été pas publiés dans le mois précédent. Petit éloge de la vérité. Je vous ai présenté brièvement, jeune père de famille, philosophe de formation, éditeur. Est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose à cette présentation?
Non, c'est parfait, c'est très bien.
Voilà. Est-ce qu'on peut dire converti aussi? Parce que j'ai cru comprendre dans le livre que peut-être il y avait eu une bascule ou...
Pas vraiment. En fait, j'ai toujours... mes parents étaient chrétiens, catholiques, sans être extrêmement pratiquants. Comme beaucoup de personnes, j'ai pas non plus été extrêmement pratiquant tout au long de ma prime jeunesse. Et puis en fait, ce sont les JMJ de Cologne qui m'ont convaincu qu'il se passait vraiment quelque chose de fondamental dans l'Église. Notamment la veillée de prière avec Benoît XVI.
Veillée d'adoration, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Vraiment là, je me suis dit qu'il y avait un message que seule l'Église donnait aujourd'hui. Et alors là, je me suis remis en chemin. C'était le premier mouvement. Et en fait, le deuxième, comme vous l'évoquez, c'est le fait de devenir père de famille.
Alors justement, donc vous en parlez dans votre introduction. Vous dites que vous contemplez le bébé à naître dans le ventre de votre femme. Enfin, vous touchez le ventre de votre épouse. Et puis, vous vient cette question, comment lui donner le goût de la vérité? Et puis, ça part d'une forme d'agacement. Alors, peut-être qu'un certain nombre d'auditeurs se retrouveront, parce que je sais que parfois, c'est pour ça qu'ils écoutent Radio Présence, non pas qu'on soit mieux que les autres, hein, mais peut-être c'est un son de cloche un petit peu différent. Racontez-nous cet agacement et ce bouillonnement intérieur.
C'est simplement... vous saurez tout. J'avais l'habitude d'écouter la radio sous la douche. Et même pendant une période de ma vie, j'écoutais très très souvent la radio, une radio nationale dont je tairai le nom. J'entendais effectivement des analyses qui me paraissaient, on va être gentil, pas tout à fait exactes, pas tout à fait bien informées par rapport à moi, mes connaissances qui me semblaient bien étayées. Et vous dites une bêtise une fois, en privé c'est une bêtise une fois, quand c'est répercuté dans des millions de foyers, ça prend une autre dimension. Et je me suis dit, d'abord il y a ça, et puis après également je constatais que dans le monde des intellectuels et aussi chez certains universitaires, la notion de vérité elle-même était très critiquée, battue en brèche. Pourquoi ? Parce que en gros on fait le lien entre la vérité, le fanatisme, le fait que si je pense quelque chose et que je dis vrai, eh bien je vais écraser systématiquement tous ceux qui ne pensent pas comme moi, que c'est le lit des pires horreurs. Alors moi je trouvais que on jetait un peu trop facilement le bébé avec l'eau du bain. Peut-être que c'est le fait d'être père qui me faisait penser à cette métaphore, je ne sais pas. Et donc je me suis dit que là, il fallait que j'essaye de faire quelque chose à mes moyens pour essayer de montrer, peut-être pas convaincre tout le monde, mais au moins faire dire attention, ne soyons pas aussi radical envers la vérité, on ne peut pas se passer d'elle aussi facilement. Le relativisme n'est peut-être pas la réponse à tous nos maux.
Alors, venons-y. Dans votre premier chapitre, intitulé « Que perd-on quand on perd la vérité ?», vous citez donc Michel Onfray. Vous dites dans un de ses chapitres de l'anti-manuel de philosophie, vous citez donc cet anti-manuel de philosophie et vous nous dites ce qu'il dit de la vérité comme une violence, pour faire très court. Est-ce que vous pouvez resituer très rapidement Michel Onfray et puis nous dire quel est son propos et pourquoi pour vous il est emblématique?
Alors Michel Onfray, tout le monde le connaît,
presque
tout le monde. Voilà, c'est un philosophe très médiatique qui a créé une université populaire à Caen, qui vient, sa famille intellectuelle, c'est l'extrême gauche. Et c'est un Nietzschéen également patenté, c'est-à-dire disciple de Friedrich Nietzsche, qui est un des grands penseurs de la fin du 19e siècle, qui a complètement dynamité la philosophie classique telle qu'on la concevait, en prenant à contre-pied la façon dont on écrivait jusqu'ici l'histoire de la civilisation occidentale, notamment dès sa naissance en Grèce. Voilà, pour lui, il y a deux grands ennemis, on va dire, c'est Platon et c'est le christianisme, c'est le dieu judéo-chrétien, qu'il lit d'ailleurs, et en qui il voit, voilà, des mouvements qui ont empêché les gens de réellement goûter à la vie dans toute son intensité. En gros, platonisme et judéo-christianisme ont castré la pulsion vitale. Et c'est ça que tant Nietzsche que Michel Onfray essayent de réhabiliter. La pulsion vitale, le bouillonnement de la vie, voilà.
Alors, je vous citais donc Michel Onfray, « La vérité est singulière et non universelle, relative et non absolue, particulière et non générale, datée et non hors de l'histoire et du temps. Est-ce vrai qu'une époque énonce comme telle, jusqu'à preuve du contraire ?» Est vrai ce qu'une époque énonce comme telle, jusqu'à preuve du contraire ?» Donc cette vérité est relative. Vous dites malgré tout qu'au milieu de ça, Michel Onfray, peut-être ce qu'il représente, reconnaît qu'il peut y avoir quelques vérités incontestables, ou moins, en physique, en biologie, en chimie, en histoire, etc., parce que sinon ça serait vraiment le chaos. Est-ce que vous pouvez expliquer cela?
En fait, je me l'explique mal, parce que c'est justement des points où c'est une position qui est difficilement tenable, qui est incohérente, parce que pourquoi finalement certains points de vue seraient acceptables et d'autres non? Vous connaissez peut-être l'histoire indienne de ces gens à qui on bande les yeux et à qui on demande de toucher un éléphant. Alors l'un va toucher la patte, il va dire c'est une colonne. L'un va toucher la trompe, il va dire c'est un serpent. L'autre va toucher l'oreille, il va dire je ne sais pas, une feuille de bananier, disons. Alors ça, c'est du relativisme conséquent. C'est-à-dire que chacun perçoit la réalité selon un point de vue déterminé. Ça, je crois que c'est quelque chose qu'on peut difficilement contredire. C'est vrai, en fonction de l'endroit où on est, de l'époque, sur les mêmes objets, on a un point de vue différent de par l'éducation, la culture, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, nous avons un objet. Nous avons un éléphant.
C'est-à-dire que les trois ne disent pas « c'est en plus un éléphant ».
Ils ne peuvent pas le savoir parce qu'ils ont les yeux bandés.
D'accord.
Mais ils touchent le même objet. Et si on leur enlève le bandeau, ils constateront que voilà, l'objet qu'ils touchaient était un objet 1, défini. Tandis que dans le relativisme dans lequel nous sommes aujourd'hui, en fait, il n'y a plus d'objets. En réalité, c'est une espèce d'idéalisme absolu dans lequel c'est chacun qui se crée finalement sa propre réalité. Et de fait, il n'y a plus de réalité parce qu'il n'y a plus de communication entre les gens. Les gens n'ont plus de monde commun Voilà, chacun est dans son petit monde.
Et justement, il y a quand même pas, enfin, il y a quand même pas la reconnaissance d'un minimum, au moins de ce qui est enseigné, par exemple.
Eh ben, c'est là que se pose la question, parce que si effectivement tous les points de vue, toutes les constructions du monde sont légitimes, nous sommes confrontés à des problèmes, parce que certains sont effectivement difficilement acceptables. Par exemple, le créationnisme, c'est une théorie qui est totalement incompatible avec les sciences. Vous avez le négationnisme.
Le créationnisme, c'est donc de croire que Dieu a créé.
Voilà, c'est ça.
A créé le monde en 7 jours.
Voilà,
lecture littéraliste des Écritures.
Exactement, c'est croire que la Bible crée une description factuelle de l'histoire naturelle.
Mais là, en l'occurrence, c'est peut-être un mauvais exemple parce que ça contredit la science, pour le coup, non ? C'est
Oui, enfin, d'accord, évidemment.
J'entendais qu'il y avait un minimum de vérité, enfin, pour faire écho à ce que vous citiez, un minimum de vérité incontestable qui sont comme un socle commun et qui font quand même un point de dialogue, en fait, avec.
Oui, mais dans le relativisme absolu, pourquoi, si on était relativiste absolu, pourquoi finalement les anti-darwiniens ne seraient pas écoutés comme les autres ? C'est problématique. C'est ce que je pointe là, c'est que justement il y a une incohérence dans ce relativisme.
Alors vous citez aussi Raphaël Enthoven, tout le monde le connaît pas, ça serait pas mal que vous nous en parliez un petit peu, et vous dites à son propos et pas qu'à son propos que aujourd'hui en fait l'âge adulte c'est celui du désenchantement. Vous expliquez que Raphaël Enthoven, est aussi un disciple de Nietzsche et que voilà la manière d'arriver à dépasser cette absurdité du monde, ce serait de se lancer dans une forme d'absurdité de la joie, c'est ça, ou la gaieté du savoir, c'est ça.
Alors Raphaël Enthoven est également philosophe, il est chroniqueur régulier sur une radio nationale, et ce qu'il dit effectivement, c'est que en gros, dans la citation que je donne, que le monde est absurde, qu'il n'a pas de sens. Que faire de la philosophie conséquente, c'est faire le deuil de trouver un sens, une vérité à ce monde. Mais que il faut pas en être triste, parce que il faut au contraire, d'une façon assez volontariste, dire c'est pas grave, je vais trouver la joie quand même. Mais du coup. Là, ce qui est inconséquent, je trouve, dans cette citation, c'est que dire que l'être n'a pas de sens, la vie n'a pas de sens, c'est une affirmation qui a toutes les formes d'une affirmation vraie. Là est le problème du relativisme. C'est que si tout est relatif, normalement, même l'énoncé « tout est relatif » devrait être relatif. Or, les gens qui l'énoncent, l'énoncent en fait comme une proposition vraie. Comme quelque chose qui est réel. Et là est le problème, c'est que ce relativisme, en réalité, prétend lui-même à une forme d'hégémonie intellectuelle.
Et vous dites aussi dans votre livre que c'est pour vous, en fait, cette hégémonie intellectuelle, c'est l'hégémonie intellectuelle dans laquelle on vit aujourd'hui.
Je pense que oui.
Alors, vous expliquez à un moment qu'en fait, face à l'absurdité, il y a deux options, une option apollinienne et une option dionysiaque. Expliquez-nous ces deux nuances. Face au vertige de l'absurdité, il y aurait deux manières de réagir.
Alors ça, c'est une analyse de Nietzsche. Pour Nietzsche, le principe... matriciel, l'origine de l'être, c'est une espèce de chaos bouillonnant, de sensations, de phénomènes, tout part dans tous les sens, c'est une création perpétuelle qui un foisonnement, et que face à ce foisonnement qui est terrifiant, vous avez deux options, ou bien vous plongez dans ce flux créateur en tant qu'artiste, poète, et vous-même vous essayez de participer à ce bouillonnement. Ça, c'est le côté dionysiaque. et vous perdez votre individualité, votre illusion d'individualité, voilà, dans ce chaos. Ou bien vous essayez de donner forme à ce qui n'a pas forme. Vous essayez de créer, de structurer, d'organiser. Et là, c'est la réaction apollinienne.
Donc c'est quoi ? C'est ce que j'ai cru comprendre, c'est comme juste une forme d'esthétisme.
Voilà,
qu'est-ce
c'est
que ça.
Ça
veut dire, c'est...
Eh bien, voilà, c'est la Grèce classique. Le modèle de c'est Platon, la Grèce classique. Vous faites des statues parfaitement aux lignes parfaitement claires. Vous organisez des villes, des temples. Tandis que la référence culturelle dionysiaque, c'est la tragédie.
Alors, au milieu de tout ça, avant qu'on fasse une première pause, vous dites, vous parlez à la première personne, vous dites face à cela, quelque chose en moi crie. Et puis, on sent que vous faites le porte-parole peut-être d'un certain nombre de personnes. Est-ce le cas ? Et si oui, en quoi consiste ce cri ?
Alors, je ne sais pas si... certainement qu'il y a d'autres personnes qui doivent ressentir la même chose... La même chose que moi, ça ne satisfait pas ce relativisme à titre vraiment profondément personnel, parce que peut-être que j'ai en moi une certaine soif d'absolu, de désir, de quelque chose de plus grand que moi. Parce qu'au fond, dans le relativisme, chacun met dans le monde que ce qu'il y met lui-même. Chacun est créateur de son propre monde, mais à partir de ce qu'il a. Et j'ai le sentiment que dans ce contexte-là, finalement, on rencontre jamais d'autres. C'est toujours un écho de soi-même, un miroir, un reflet de soi-même qu'on trouve. Et dans le monde, dans ces cas-là, voilà, on cherche une confirmation perpétuelle de ce qu'on est, de ce qu'on pense. Alors ça peut avoir un côté, j'en doute pas, tout à fait, confortable, mais c'est pas le bon mot, tout à fait satisfaisant à un certain niveau. Mais voilà, où est l'autre ? Et moi, j'avoue, j'ai parfois le sentiment d'étouffer, de manquer d'air, parce que justement, on n'a plus trace d'altérité. Il y a que voilà, il faut retrouver perpétuellement ce qu'on met déjà nous-mêmes.
On va faire une première pause. Votre livre, je rappelle son titre, « Petit éloge de la vérité, manifeste pour un humanisme chrétien » paru aux éditions Salvator. Ce matin, une émission Vivante Église, donc Petit éloge de la vérité, c'est le titre donc du livre de Vincent Morsch, paru donc aux éditions Salvator avec ce sous-titre « Manifeste pour un humanisme chrétien ». Alors, vous nous avez vous nous avez aidé à décrypter, même si un certain nombre d'auditeurs en sont familiers, parce que vous n'êtes pas le premier à dire ça à cette antenne et dans l'émission Vivante Église, le relativisme ambiant dans lequel on vit et en fait cette profonde défiance à l'égard de la vérité. Vous avez même à un moment ce mot, vous dites que c'est un relativisme de combat, d'un relativisme polémique. Malgré tout, vous avez quand même un petit moment, un peu de tendresse pour ce relativisme, enfin j'ai trouvé. et de compréhension, parce que vous dites qu'il n'est peut-être pas sans fondement, et vous faites un petit peu d'histoire. Rappelez-nous ce qui, à votre avis, a pu fonder ou provoquer, en fait, en tout cas, c'est ce que vous dites dans votre ouvrage, cette tentation du relativisme.
Oui, alors bon, c'est une hypothèse historique. Voilà, je me suis dit que ce qui a pu jeter ce trouble chez les intellectuels et les penseurs envers la vérité, ça a pu être les guerres de religion. Quand les chrétiens se sont déchirés, chacun prétendant avoir la bonne interprétation des Écritures. Alors disant cela, je jette la pierre sur aucune confession. Je constate que ça a été un traumatisme et que un grand esprit comme Montaigne, c'est clairement une des sources d'inspiration pour lui de son relativisme. Il n'était pas relativiste au sens moderne, mais son scepticisme, sa prudence provenaient certainement de cette situation historique. Et on est passé de ce scepticisme débonnaire, comme vous le rappeliez, après un relativisme de combat, où il s'agit moins de favoriser, on va dire, la prudence et l'entente, tout en cherchant cet horizon qui est la vérité, mais de détruire les positions adverses de ce que pensent les autres. Mettre à la place ses propres opinions. Parce que ce que vous remarquerez quand même, ce qui est assez amusant, c'est que les relativistes d'aujourd'hui sont parfois fort dogmatiques sur leurs propres idées. Très critiques envers les idées des autres, mais après, leurs propres idées sont finalement deviennent de nouveaux dogmes.
Est-ce qu'il y a d'autres noms qui vous viennent? Il ne s'agit pas de dénoncer, mais est-ce qu'il y a des figures intellectuelles qui, pour vous, aujourd'hui, sont profondément représentatives de ça, en dehors des deux que vous avez cités au début de l'émission, Michel Onfray et Raphaël Enthoven?
Non, écoutez...
Vous en resterez là, très bien.
Je resterai là, voilà. Pour moi, Michel Onfray, c'est un très bon exemple.
Alors, vous, il faut que je fasse attention, je dis tout le temps, alors, oui, je pense tout haut. On me fait souvent la remarque. Donc, mea culpa auprès des auditeurs. Vous montrez les applications aujourd'hui de ce relativisme. Et alors, il y a un chapitre qui s'intitule « Économie de marché et toute puissance ». Pour vous, il y aurait un lien, en fait, de cause à effet entre ce relativisme et certains excès de l'économie actuelle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui peut paraître un raccourci pour certains ?
Alors en fait, c'est plus sur la toute-puissance que je réfléchis là.
Oui, en effet, c'est ça.
Effectivement, les auditeurs aussi se seront certainement fait la remarque. Finalement, la publicité est un monde merveilleux où tout nous est promis. Vous achetez à peu près n'importe quoi et vous êtes bardé de pouvoirs mystiques ou digne de super-héros.
Vous dites que c'est même le ressort de la publicité, justement.
C'est un des ressorts, je pense. J'ai des enfants en bas âge, et quelque chose qui me frappe tous les jours, oui, parce que j'en ai eu un second aussi entre-temps, et ce qui me frappe tous les jours, c'est qu'ils n'ont pas de limites. Que vraiment, l'éducation, c'est leur apprendre qu'il y a des limites. Et un enfant qui veut très très fort quelque chose... Il le veut brutalement, mais il change très rapidement d'objet de volonté. Et il est dans un monde où il n'y a pas de frontière entre le besoin et la réalisation de ce besoin. Et c'est pour ça que je trouve que le monde de la publicité est un monde très, très infantilisant, parce qu'il joue sur ces ressorts très archaïques, au fond, d'accomplir des besoins de façon immédiate. Alors évidemment, tout ça, c'est totalement imaginaire. Personne ne...
Alors justement, je vais vous citer. Le consommateur idéal est un enfant rêveur flottant doucement dans les limbes d'un univers aseptisé aux formes chatoyantes, obéissant à la moindre impulsion de désir. Et puis vous dites la chose suivante. Nul n'est assez stupide pour penser qu'acheter une paire de chaussures le fera courir aussi vite qu'Usain Bolt, mais quelque chose de son illustre prescripteur lui sera obscurément associé, quelque chose qui sera susceptible d'être ensuite intégré à l'identité de son propriétaire. Je me suis juste dit à la lecture de ce passage que certes il était parlant, Mais est-ce qu'il n'est pas normal, en fait, est-ce que dans la vie, donc dans les achats, comme dans beaucoup de choses, il n'y a pas, comment dire, dans le quotidien de nos vies, y compris de nos achats, pour être plus précis, toujours quelque chose de plus grand que l'on recherche ou que l'on vise? Quand on fait une émission de radio comme ça, on vise probablement quelque chose qui est au-delà juste du fait de dialoguer ensemble. Quand on achète une paire de chaussures, évidemment, il y a derrière des rêves d'aventure et qui sont pas forcément tous à... Est-ce que ces projections sont toutes à jeter?
Écoutez, je veux dire bien sûr que non. Simplement cet imaginaire de l'illimité dans lequel on baigne, finalement, je crois qu'il a des répercussions qui sont culturellement et socialement réelles, palpables, ça s'incarne de plus en plus dans l'esprit des gens. Ça s'imprègne. Les gens sont de plus en plus imprégnés par cette logique.
C'est-à-dire une logique de toute puissance.
Une logique de toute puissance, et comme finalement des petits enfants, peut-être la difficulté à vivre la frustration.
Alors vous citez aussi Steve Jobs, et vous nous faites découvrir un autre visage du cofondateur d'Apple. Racontez-nous un petit peu cet autre homme. Vous dites par exemple qu'en fait cet homme, il avait, vous le citez parce qu'il avait, semble-t-il, la volonté de vouloir laisser sa trace dans l'histoire, et par sa seule volonté de vouloir travailler à la transformation du réel, à vous lire. Et donc cet homme serait peut-être moins admirable qu'on peut l'imaginer. Vous dites qu'il avait l'habitude de classifier l'humanité en deux catégories, les dieux et les crétins.
Oui, alors...
Vous avez bien sourcé vos bouquins.
C'est tiré de la biographie officielle de Steve Jobs. Steve Jobs, pour les auditeurs, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est le cofondateur de Apple. Alors oui, c'est un personnage extrêmement étonnant qui a été baigné en plein âge d'or de la contre-culture de Californie. La Californie étant, dans les années 60, un mélange assez étonnant entre... haute technologie les hippies avec tout ce que ça implique de recherche spirituelle un peu débridée, d'usage de drogue, de LSD notamment. Et Steve Jobs...
Recherche spirituelle qui était peut-être authentique malgré tout quand même. C'est...
Oui, tout à fait. Et Steve Jobs était pleinement inscrit dans ce mouvement. Il était très intéressé par... les religions orientales. Il a fait un séjour en Inde chez un grand gourou et il en est ressorti. Déjà, il avait certainement une vision très particulière de lui-même. Il devait certainement penser qu'il avait un côté un peu unique. Et tout ça, ça l'a conforté dans le fait que c'était un créateur et qu'il pourrait effectivement... faire tout ployer sur son passage. Alors ses collaborateurs parlaient du champ de distorsion de la réalité.
Ça veut dire quoi?
C'est-à-dire qu'il était capable de faire croire n'importe quoi à peu près n'importe qui. Je cite un exemple d'un de ses collaborateurs qui lui dit, voilà, il m'a demandé de créer le premier jeu de casse-briques en moins d'une semaine. Pour moi, c'était impossible, mais il a fait en sorte que ce le soit. Et son style de management, c'était ça. Après, la citation que vous donnez, ça montre bien un peu les limites des choses. C'est-à-dire qu'il y en a qui réussissaient à rentrer dans cette logique, à être persuadés qu'ils pouvaient faire des choses a priori impossibles, et ceux qui n'y arrivaient pas. Donc, c'était les crétins.
Alors, vous citez un autre passage. Semble-t-il, il a pris du LSD à un moment. Prendre du LSD est une expérience profonde. Ce fut l'un des moments les plus importants de ma vie. Le LSD montre l'autre facette des choses. Cela a renforcé ma perception, m'a permis de savoir ce qui était essentiel, créer plutôt que gagner de l'argent, mettre à flot le plus de choses possible dans le fleuve de l'histoire et la conscience humaine. Donc vous citez Steve Jobs parce que pour vous, il incarne quoi en fait?
Il incarne ce que peut donner ce sentiment de cette volonté de puissance. Voilà, créer des entreprises qui conquériraient le monde, qui créeraient des objets qui révolutionneraient la vie quotidienne des gens. Et de fait, il y a réussi. Parce que certes, il y a le micro-ordinateur, mais bien sûr, les téléphones portables, les tablettes qui ont complètement changé nos vies quotidiennes.
Vous êtes quand même assez mordant dans votre livre, hein. Donc je cite un autre passage. Comme un groupe religieux, les consommateurs qu'il a suscité sont appelés à vénérer la figure d'un père fondateur, à affluer de toute la planète pour participer à des cultes de masse et à connaître des crises d'hystérie devant les révélations de l'esprit en ses œuvres. Vous pensez en fait à la sortie des derniers téléphones portables où tout le monde se rue, c'est ça?
Comme disait quelqu'un, tout à fait.
Alors, l'autre incarnation de cette volonté de puissance, de cet au-delà de la vérité, ça serait le transhumanisme. C'est pareil, on en parle pas mal à cette antenne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, pour vous, c'est un exemple frappant? Vous dites, et vous n'êtes pas le seul, c'est un des risques majeurs auxquels l'humanité est aujourd'hui confrontée.
Oui, alors le transhumanisme consiste à s'appuyer sur les développements des dernières technologies en biotechnologie, en informatique, en cybernétique pour proposer une augmentation de l'être humain physiquement, corporellement, augmenter ses capacités physiques, ses capacités cognitives, sa faculté de penser parce que on considère de façon implicite ça sans doute nous y reviendrons plus tard, que la création est ratée, que l'être humain est raté. La frustration devant la maladie, devant la mort devient insupportable. Et donc l'avenir de l'humanité consisterait finalement à devenir une espèce de cyborg, de machine, à se déshumaniser pour conquérir ce... Et là aussi il y a quelque chose d'intéressant, c'est la quête de l'immortalité. Qui est un des ressorts des religions, des quêtes spirituelles. Aujourd'hui, elle s'incarne en partie dans un matérialisme, dans un positivisme assez radical, qui exclut complètement la question de l'âme, du salut, mais qui voit, ou plutôt qui voit le salut uniquement dans l'extension indéfinie de l'existence. D'un esprit qui est conçu non plus comme quelque chose de spirituel, mais finalement comme des algorithmes.
Est-ce que vous pouvez citer quelques exemples? Parce que le transhumanisme, on en parle beaucoup, mais on peut avoir l'impression que c'est très loin. Vous parlez par exemple du laboratoire Google X, du Google X Lab. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelques premières applications qui vous viennent en tête ou vous avez pu découvrir en faveur de vos recherches?
Par exemple, les exosquelettes. Donc on voit ça dans certains films de science-fiction. Ce sont des structures métalliques articulées, motorisées, qui permettent de décupler la force de celui qui les revêt. Et là, c'est plus de la science-fiction, c'est-à-dire que vous avez des laboratoires, notamment liés avec le département de la défense américaine, qui testent ce genre de matériel. Et puis ce qui a fait grand bruit bien sûr aussi, c'est l'annonce de la création d'une start-up de Google qui cherche à éradiquer la mort. Alors c'est vite dit, en fait quand on cherche très rapidement on se rend compte que c'est juste entre guillemets augmenter la durée de vie de quelques dizaines d'années. Donc il y a aussi des effets d'annonce, etc. Mais faux. C'est vrai que c'est un sujet qui est très à la mode, ça fait même l'objet de plus en plus de romans.
Que vous citez d'ailleurs, hein, vous dites, c'est un courant qui irrigue donc une culture populaire contemporaine. Vous citez La possibilité du Nil de Michel Houellebecq, Inferno de Dan Brown, etc., etc.
Et oui, il y a Frédéric Becbédé, je crois aussi, qui a écrit tout récemment un roman à ce sujet-là. C'est vrai que c'est un très bon sujet de roman.
À ce sujet, donc, vous vous dites qu'il y a comme un mouvement paradoxal où les extrêmes se rejoignent. Est-ce que vous pouvez expliquer ça? Vous faites un parallèle entre un certain matérialisme et un certain mysticisme. Expliquez-nous.
Oui, pour moi, le transhumanisme, c'est la résurrection du gnosticisme.
C'est gnosticisme, c'est...
Le gnosticisme est un courant du début de l'ère chrétienne qui mélange à la fois des apports chrétiens, judéo-chrétiens et les traditions philosophiques grecques. En gros, le gnosticisme, c'est penser que le salut passe par la connaissance, par la science. Et également, un point commun, c'est le mépris envers le corps. Le corps charnel est trop limité, nous devons nous en débarrasser. Alors le gnostique, lui, se rêvait de mystiquement se séparer de son corps, de vivre dans un monde éthéré, épuré, tandis que le transhumaniste, lui, au contraire, veut trouve son salut dans la science matérialiste et dans la perpétuation d'un corps mécanisé ou et un esprit informatisé. Mais finalement, en fait, c'est de rejet de la chair dans ses faiblesses. La chair qui naît, qui grandit, qui est blessé, qui vieillit, devient insupportable.
Vincent Morc, c'est votre nom et le titre de votre ouvrage, Petit éloge de la vérité, manifeste pour un humanisme chrétien, paru aux éditions Salvator. On fait une deuxième pause et on vous retrouve tout de suite après. Cette émission Vivante Église ce matin avec Vincent Morche et pas Morc, comme vous le faisiez remarquer, pour rappel, autour d'un ouvrage Petit éloge de la vérité, manifeste pour un humanisme chrétien paru aux éditions Salvator. Alors après nous avoir décrit cette ère du rejet de la vérité, pour résumer, qui est peut-être celle dans laquelle on vit, vous nous introduisez à cette réalité peut-être plus connue de nos auditeurs, qui est donc cette immense révélation pour les chrétiens que la vérité est une personne et que cette personne c'est le Christ. Alors vous n'êtes pas le premier non plus, mais vous soulignez qu'il y a dans cette révélation un certain nombre de paradoxes, c'est-à-dire qu'à la fois c'est une évidence et en même temps ça laisse chacun dans une très grande liberté, c'est une incarnation et en même temps c'est comme un... Je me demande si vous n'utilisez pas le terme de voilement, il y a quelque chose qui est voilé. Racontez-nous un peu ces paradoxes apparents de la vérité chrétienne qui ne ressemblent pas du tout justement à l'idée que les philosophes que vous citiez ou les intellectuels que vous citiez au début de l'émission se font d'une vérité écrasante ou imposante et qui ne laisse pas libre justement.
Oui, alors moi, la scène des évangiles qui me semble la plus forte à ce sujet, c'est le procès de Jésus, notamment tel qu'il est raconté par Jean, où vous avez Pilate qui lui demande qu'est-ce que la vérité. L'ironie tragique de la situation, c'est que la vérité, il l'avait littéralement devant lui. Je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité, c'était cet homme. Et il ne l'a pas reconnu. Et cette vérité fait homme, Dieu fait homme, ne lui a pas dit « Hé, Coco, tu vas arrêter là, t'as vu qui t'a devant toi ?» il n'y a pas les légions d'anges qui sont descendues du ciel pour faire ployer les genoux à Pilate. Un autre épisode que je trouve très fort également, qui se situe de fait avant cette scène, c'est celle du lavement des pieds, où Dieu fait homme, fait le geste des esclaves, alors à l'époque, évidemment, les gens marchaient avec des sandales, il n'y avait pas de route goudronnée comme vous l'imaginez parfaitement, donc ça ne devait pas être une tâche qui était extrêmement agréable. Et voilà, c'est un geste d'humilité, le signe que Dieu se met au service de l'être humain. Et ça, c'est une immense nouveauté.
Ce que vous laissez entendre, en tout cas, c'est que, à votre avis aussi, quand Pilate pose la question « Qu'est-ce que la vérité ?», il la poserait peut-être comme la pose un certain nombre de nos contemporains ou des figures intellectuelles que vous citez. Alors bon, on n'est pas dans leur fort interne, hein, dans le secret de leur cœur, mais que ça n'est pas véritablement une question, en fait. C'est comme une question laissée jetée en l'air. Quand vous laissez entendre que vous faites ce parallèle, qu'est-ce que vous voulez dire par là, en fait? Que souvent, on pose cette question aujourd'hui sans la poser vraiment parce qu'on a peur de la réponse. Quel est le sous-entendu derrière cette remarque?
Qu'on pose cette question pour ne pas avoir à y répondre. Après, le cas de Pilate est aussi assez complexe, parce qu'en fait, on se rend compte qu'il s'est rendu compte que Jésus était innocent. Et il fait des allers-retours entre le prétoire et la foule plusieurs fois. Mais vous êtes sûr? Et ce qui est tragique, c'est que il n'a pas pris la mesure, il n'a pas eu le courage d'être conséquent avec sa conviction que cet homme était innocent.
Alors vous avez cette phrase « Nul n'est à l'abri de manquer un tel rendez-vous, mais nul ne peut plus désormais en ignorer la conséquence ultime ». Qu'est-ce que vous entendez par là? Mettez-vous à la place des auditeurs, peut-être, qui se posent cette question de la vérité.
Eh bien, je crois que tout un chacun... nous serons amenés au cours de notre vie, sans doute pas très souvent et sans doute aussi heureusement, à devoir trancher sur une question de pour juger d'une situation qui met en jeu vraiment la dignité de ceux qui nous entourent.
Est-ce que vous avez des exemples qui vous viennent en tête?
Eh bien, par exemple, bien sûr, les personnes très âgées qui sont en grande dépendance. Nous avons tous des parents, le temps passe, et peut-être que nous serons confrontés, à des situations vraiment extrêmement, extrêmement difficiles. Et alors, honnêtement, je dis pas que c'est vraiment pas des choses, des situations faciles et des décisions faciles à prendre, mais qu'est-ce qui, en vérité, permettra de respecter l'humanité de l'autre? Qu'est-ce qui fera que même dans les situations apparemment les plus désespérées, je rendrai hommage et honneur à l'humanité de l'autre?
C'est ce que vous entendez donc par ces rendez-vous.
Les rendez-vous avec la vérité.
Ça serait des moments dans la vie où on a rendez-vous avec la vérité.
Les rendez-vous avec la vérité.
On s'en rend pas compte, mais on aurait rendez-vous avec Dieu, en fait, à ce moment-là.
Oui, parce qu'on a rendez-vous avec le mystère de l'humanité, finalement. Avoir rendez-vous avec Dieu, c'est quelque part avoir rendez-vous avec le mystère de l'humanité, le plus profond, et le respect de la vie. Je crois que la scène du procès de Jésus... nous permet de nous rendre compte que ce qui est en jeu, c'est la vie concrète d'un innocent. Le Christ est innocent, pourtant il est condamné. Sommes-nous responsables de notre vieillissement? Sommes-nous responsables des maladies qui peuvent nous toucher? Non, pourquoi nous aurions, en dehors de la maladie, avoir à payer le prix, par ailleurs, encore... terrifiant, de notre déshumanisation.
Vous avez cette phrase aussi, le procès de Jésus est présent à chaque fois que cette injustice contre les plus petits, je ne retrouve pas la situation exacte, est commis. Alors vous avez aussi encore une autre expression, vous dites que cet appel à la vérité, lorsqu'il est entendu, engendre un double risque vital. Expliquez-nous quel est ce double risque de la vérité.
Bah, le double risque de la vérité, c'est que nous sommes conviés, voilà. Si nous n'y répondons pas, nous sommes amenés très certainement à commettre l'injustice. Et si nous y répondons, eh bien, nous n'avons pas la garantie de donner la réponse adéquate. Parce que c'est un chemin, c'est vraiment un chemin de découverte qui est personnel. Parce que personne n'a la clé. Mais...
Je vous cite ce double risque, moi j'avais compris que c'est qu'en fait la vérité est toujours scandaleuse et qu'elle est toujours un combat.
Oui. C'est toujours ce combat qui doit nous amener à
Alors elle est toujours scandaleuse déjà, commencez par ça, qu'est-ce que ça veut dire c'est...
Elle est toujours scandaleuse, alors là je fais référence à la vérité, scandale pour les juifs et folie, scandale pour les païens et folie pour les juifs, au moins que ce soit l'inverse, je ne sais plus.
Pardon. Scandale pour les juifs et
folie pour les païens, merci. Voilà cette vérité christique qui est la vérité qui se met au service des hommes, qui s'incarne. Alors une vérité incarnée pour un grec, laissez tomber, c'était juste impensable. En plus, qui ressuscite, donc voilà. C'est du point de vue purement logique, c'est un non-sens, c'est une absurdité. Pardonnez-moi la suite.
Et scandaleuse parce qu'elle est toujours aussi objet de contradiction.
Elle est toujours objet de contradiction. Exactement, le christianisme, c'est la religion de la contradiction.
Alors qu'est-ce que ça veut dire par exemple pour les croyants? C'est-à-dire qu'à vous entendre aussi, en fait, il y a, c'est comme toujours un feu qu'on tient dans ses mains quelque part la vérité ou dans son cœur. Et donc même les croyants, les pratiquants, en fait, sont toujours convoqués à ce scandale de la vérité, non?
Oui, c'est un peu l'opposition aussi que fait Jean dans son évangile entre Jésus et le monde. Je crois pas qu'on puisse dire même à l'apogée du Moyen-Âge, qu'il était facile d'être chrétien. Que dans toute société humaine, aucune société humaine n'est le royaume de Dieu. Et qu'en tant que chrétien, nous sommes amenés à faire avancer le royaume de Dieu. C'est un horizon. Et nous devons, je pense, être attentifs à ne pas nous laisser un peu endormir ou dominer par l'esprit du monde.
Voilà, c'est pareil, je ne retrouve pas la situation, mais ce que vous laissez entendre, c'est qu'en fait, on court quelque part toujours après ce que l'on a entrevu, et cette course est toujours, comment dire, dans cette course, il y a toujours ces deux réalités de cette vérité qui peut avoir quelque chose de scandaleux et qui est toujours un combat. Oui, c'est, l'expression que vous avez, c'est que dans ce combat, l'on court après ce qui nous sépare d'elle. Enfin, vous finissez votre ouvrage par un émerveillement. Alors, c'est peut-être vous boucler la boucle, puisque tout a commencé en contemplant un bébé à naître dans le ventre de votre épouse. Vous parlez de la gratitude. Vous dites à la fin qu'il faut comme renverser la situation et passer du désenchantement à la gratitude. Et alors, vous citez pour ça Bernard de Clairvaux, qui aurait dit donc que le seul péché qui soit, c'est l'ingratitude. Alors, racontez-nous. Je me suis dit, là, il va nous faire... il va faire écho peut-être à tous les livres de psychologie qu'on peut lire en ce moment. Mais pourquoi vous insistez sur cette gratitude?
Alors il y a le psaume 139 que je cite. C'est toi qui m'as formé les reins, qui m'as tissé au ventre de ma mère. Je te rends grâce pour tant de merveilles, merveille que je suis, merveille que tes œuvres. La Bible commence par le récit de la création du monde et au terme de la création, Dieu dit « c'est très bien ». Et ça, c'est quelque chose qui est, je crois, vraiment absolument fondamental, en dépit du mal, de la souffrance qu'on peut que constater. Eh bien, le fond de l'être est bon.
Parler de bonté primordiale.
La bonté primordiale de l'être, la bonté primordiale de l'existence.
Est-ce que c'est pas rousseauiste, ça? Enfin, non, c'est...
C'est d'abord bon chrétien. Sauvage. Non, non, non. Non, c'est pas une utopie, parce que pour Rousseau, voilà, le bon sauvage était bon, mais maintenant la société est corrompue. Or, aujourd'hui, en dépit, voilà, de la société qui est ce qu'elle est, pas terrible parfois, eh bien, il n'en demeure pas moins que l'être demeure bon. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, il faut faire la distinction entre la société et la création. La société, ce qu'elle est, c'est une, voilà, c'est fondée sur des données naturelles, c'est ce que l'homme en fait. Mais le monde, lui, reste l'œuvre de Dieu, la création reste l'œuvre de Dieu. Et il y a quelque chose qui reste de façon absolue, bonne, et la trace de la bonté de Dieu.
Enfin, pour finir, on finira là-dessus. Vous finissez pas tout à fait là-dessus, mais on finira en tout cas l'émission là-dessus. Vous invitez à prendre conscience du fait que, quelque part, nous vivons une forme de miracle quotidien. Qu'est-ce que... précisez-nous cette réalité. Vous dites que face à cette création, on peut rentrer dans un émerveillement et que on s'habitue par trop à ce qu'est à ce miracle qui est tout simplement la vie.
Pour le coup, on boucle aussi un petit peu la boucle. Peut-être que les médias ont une responsabilité dans le fait que nous ne soyons plus aussi sensibles que ça au miracle d'être vivant. C'est que souvent, les médias nous mettent en avant ce qui ne va pas et construisent un petit peu un monde angoissé. Je crois qu'il est nécessaire de savoir faire un pas de côté, de savoir, pardonnez-moi, éteindre la radio, éteindre la télé, et puis, par exemple, se balader dans vos si belles montagnes et de se reconnecter avec la bonté de ce qui est, avec la joie simple de marcher, de respirer. Et en faisant cela, je crois aussi que nous participons, nous sommes en communion aussi avec le Dieu créateur, en louant, même sans forcément faire des grandes prières, en goûtant, en jouissant tranquillement de ce don qui nous a été fait, nous rendons hommage et nous rendons grâce à Dieu.
Eh bien, merci beaucoup Vincent Morche d'être venu ce matin au micro de Vivante Église pour cette émission enregistrée donc depuis nos studios de Lourdes. Je rappelle une dernière fois le titre de votre livre, Petit éloge de la vérité, manifeste pour un humanisme chrétien, paru aux éditions Salvator. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Cette émission était réalisée par Gilles Galbardi. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.